On va maintenant écouter rapidement, sans transition, Yann de Dudza et Marie de Haine qui ont 5 minutes chacun, donc qu'ils en fassent bon usage. Yann, doctorant en écologie au laboratoire Bioemco, et Marie de Haine qui est élève ingénieure à Agrocampus Ouest Centre d'Angers, spécialité paysage, cabinet de Fabienne Giboudeau, adjointe au maire de Paris, chargée des espaces verts. Allez Yann, c'est
parti.
Magic Alena arrive, ça va fonctionner tout de suite. Voilà. C'est incroyable, dès qu'elle est là, ça fonctionne. Allez, Yann, on ne perd pas de temps, on y va. Et ensuite, on fera une petite pause, on va un petit peu décaler notre programme, mais on fera une petite pause parce que là, je sens qu'il y a une perte d'attention dans la salle.
On va faire en sorte qu'on
puisse
avoir la pause.
Allez, c'est parti, le duo.
Donc ce travail, c'est un travail qui vient d'une étude un peu plus grande qui visait tout simplement à faire une sorte d'état des lieux sur les toitures végétalisées. Parce que les toitures végétalisées, c'est quelque chose...
Alors pas trop vite pour les traducteurs, parce que sinon, ça va être compliqué pour eux.
Ouais, effectivement. Donc on va y aller plus mollo. Donc les toitures végétalisées, c'est quelque chose dont on entend souvent parler un peu comme un système presque magique, j'ai envie de dire. On en parle souvent pour réduire l'îlot de chaleur urbain, on en parle pour favoriser la biodiversité, pour limiter le ruissellement, ce genre de choses. Le problème, c'est que quand on cherche concrètement, on n'a pas vraiment de données dessus. On a du mal à se rendre compte finalement sur ce que les toits verts, ça fait. Donc c'est un peu l'idée de cette étude, c'est d'abord se poser la question de quel potentiel pour les toits verts. On parlait beaucoup de services écosystémiques ce matin, donc quel niveau de services écosystémiques on peut attendre des toits verts. Et puis là, ce sera ma collègue qui en parlera, quel potentiel des toits verts dans le contexte des grandes villes, donc notamment Paris. Donc là, je vous ai remis rapidement, je ne vais pas tous les citer, les services écosystémiques dont on parle souvent pour les toits verts. Alors ça, on va le retrouver souvent au niveau des collectivités territoriales qui veulent mettre en place des toits verts, aussi au niveau des entreprises. Vous voyez, il y a un petit peu de tout, protéger les bâtiments, protéger l'environnement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que quand on regarde un petit peu la littérature scientifique là-dessus, déjà, il n'y a pas énormément de choses. On a essayé de recenser un peu tout ce qu'il y avait. Et puis, on a trouvé seulement 102 articles. Ce n'est pas énorme, 102 articles. Pour un domaine scientifique, en général, on est beaucoup plus sur des choses beaucoup plus grosses. La première chose, et ça rejoint beaucoup ce qu'on disait sur la pluridisciplinarité dans la table ronde ce matin, c'est qu'on a beaucoup de disciplines qui sont impliquées, mais qui sont très séparées. C'est-à-dire que les toits verts, ça va être soit regardé sous le prisme de l'hydrologie avec des hydrologues, soit du thermique, soit du naturalisme, soit de la biodiversité. Mais ça va être l'un ou l'autre. On n'a pas de mixte qui est fait aujourd'hui. Et puis, on a une approche performance pour chaque service. C'est-à-dire que les études, c'est souvent se dire, est-ce que pour l'hydrologie, est-ce que c'est efficace? Pour la biodiversité, est-ce que c'est efficace? Donc, c'est vraiment ce sur quoi se focalise aujourd'hui la recherche sur les toits verts. Ça peut poser des problèmes parce que, alors effectivement, en France, et puis en général dans le monde, on a beaucoup de toitures sédum. On avait parlé ce matin, c'était cette espèce de petite mousse là que vous voyez ici. Dans la littérature, c'est aussi ce qu'on étudie le plus, donc jusque-là, ça va. Le problème, c'est quand on veut généraliser, là, on est bien embêté. Pourquoi? Parce qu'on a à peine 5% des publications, finalement, qui vont préciser tout simplement le type de végétation utilisée, ou alors le type de végétation, le type de substrat, l'état du substrat, l'état de la végétation. Et ça, c'est embêtant parce qu'on est dans un système végétal, un écosystème, et donc si on n'a pas les conditions de base, on ne va pas pouvoir savoir comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on veut savoir si en pratique ce que nous dit telle étude fonctionne, on a besoin de savoir quelles sont ces conditions pratiques. Et aujourd'hui, on ne l'a pas, donc c'est difficile de généraliser avec les études qu'on a. Alors j'ai pris un exemple parce qu'on en parlait beaucoup, c'est le fameux effet d'îlot de chaleur urbain. C'est l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc quand on regarde les observations, les articles, on voit tout de suite un gros potentiel. Là c'est un petit peu ce que vous voyez sur ce graphique, je ne vais pas en parler beaucoup. En gros, en bas, ce sont les potentiels de réduction de température au-dessus d'un toit vert. Donc on peut se dire que si on met ça à grande échelle, on pourrait avoir un effet positif pour toute une ville, même si ça reste à modéliser. Et puis, au milieu de la littérature, on trouve un article tout à droite, là, c'est ce fameux Wong en 2007, qui montre que sur un toit vert, on pouvait avoir une augmentation de température. Le problème, c'est que quand on regarde un peu en pratique, sur cet article, on avait 45% de taux de couverture végétale, c'est-à-dire que la végétation n'avait pas vraiment recouvert le toit. Seulement, pour les autres articles, on était proche de 100%. Souvent, ce sont des publications qui sont faites à partir de toitures expérimentales, donc qui sont arrosées, ce genre de choses. Et c'est là qu'on est embêté, parce que quand on regarde en pratique, dans la réalité, bah on a beaucoup de toitures qui vont être soit de ce type-là, c'est-à-dire pas énormément de végétation, beaucoup de substrat par an. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données sur ce qui existe, sur le suivi des toitures. On sait par expérience, parce qu'on a discuté avec beaucoup de personnes, que beaucoup de toitures n'arrivent pas à maturité, beaucoup de toitures ne sont pas 100% couvertes. Un nombre conséquent, même si on ne peut pas le préciser, de toitures va mourir. Et ça, bah, ça nous pose un problème parce que qu'est-ce qui se passe pour rafraîchir les villes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on a besoin tout simplement de refléter l'énergie solaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les toits blancs. Un toit blanc va refléter l'énergie solaire. Une toiture végétalisée avec des plantes vertes, ça va réfléchir un petit peu également le soleil. On va avoir l'évapotranspiration, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait que la végétation va pouvoir évaporer, transpirer la chaleur et donc l'éliminer quelque part. Ça, bah, quand on n'a pas assez de plantes, bah, l'évapotranspiration ne va pas avoir d'effet. L'albédo, donc cet effet de réfléchissement, ne va pas non plus être efficace et on peut avoir même des effets inverses. C'est-à-dire que certains substrats, comme vous voyez ici, peuvent être très foncés. Admettons que notre toiture meure, comme c'est le cas de temps en temps, on va se retrouver avec un substrat très foncé, donc une absorption de la chaleur et potentiellement un renfort de l'effet d'îlot de chaleur urbain plutôt que le contraire. Donc ça, c'était juste pour insister sur le fait que, d'accord, on a un potentiel fort pour les toits verts, mais la façon dont cet écosystème va fonctionner est importante pour voir si en pratique l'effet est positif et a fortiori n'est pas négatif.
Il manque un savoir-faire en fait d'exploitation du
Oui,
toit.
c'est ça l'idée. Alors là, je vais juste en parler très très rapidement. C'est sur cette idée de desservice qu'on avait évoqué tout à l'heure. Quand on regarde la littérature au niveau de la pollution des eaux qui sortent des toitures, bah on a à peu près autant d'articles, il n'y en a pas énormément malheureusement, mais autant d'articles qui montrent qu'on a plus de nitrate dans les eaux issues des toitures végétalisées, d'autres qui vont montrer qu'au contraire, le nitrate est absorbé. Donc tout ça nous montre quoi? Bah, ça nous montre que les toitures végétalisées, finalement, c'est un écosystème, ce sont des plantes, les plantes, ça produit des produits chimiques, ça absorbe des choses, ça en rejette, et donc si on veut que ça fonctionne, on est obligé
De parler moins vite.
de parler moins vite. Donc on est obligé en tout cas de comprendre comment toutes les choses fonctionnent simultanément, comment les plantes, le substrat vont interagir, ce genre de choses. Et donc bien sûr, ça montre aussi l'importance d'avoir un suivi sur les toits pour comprendre si les conditions qu'on trouve dans la littérature existent en vrai. Donc maintenant, on va passer
À Marie de Haine.
Ah, en fait, il y avait une autre diapo, voilà. Donc moi, je vais reprendre aussi au niveau des formes, puisqu'on parle de toiture végétalisée. Si on prend par exemple le critère d'accessibilité, on a des toitures non accessibles qui sont typiquement les toitures de sédum qui ont été décrites précédemment, donc toitures extensives ou semi-extensives, mais aussi des toitures accessibles. Ça peut être des jardins sur dalles, comme le jardin de l'Atlantique au-dessus de la gare Montparnasse, des jardins qu'on appelle suspendus, comme la Coulée Verte ou la High Line à New York. Mais aussi, on peut noter l'essor de l'agriculture urbaine avec justement ces fermes urbaines sur les toits qui amènent de nouveaux enjeux, puisqu'ici, c'était surtout du cadre de vie, du loisir, de l'agrément pour ce qui est de type parc. Mais maintenant, du coup, des nouveaux enjeux avec de la production alimentaire et un volet social très important. Bon, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que j'avais prévu que Éric Duchemin le fasse. Je vais juste vous montrer non pas Montréal, mais New York, avec différents types de toitures, donc forcément du hors-sol, Eagle Street ou Navy Yard, qui sont un petit peu sur le même système, et puis les Sarah Bright Farms, qui sont un peu l'équivalent new-yorkais des fermes Lufa, dont Éric Duchemin a parlé. On a aussi des cultures en bac, donc vraiment une diversité de formes sur ces toitures. Et finalement, ces toitures, ça devient un espace très, très prisé, avec une concurrence pour l'espace assez forte. On a vu avec René Dutré les panneaux solaires, c'est un des enjeux de ces toitures. On a aussi l'énergie éolienne, et puis des encombrements divers qui peuvent être dus aux unités de climatiseurs, aux antennes relais. Donc voilà, un espace très prisé aujourd'hui. Cela dit, il faut quand même signaler qu'il y a des couplages qui sont possibles avec normalement, notamment des toitures végétalisées et du solaire. Ils peuvent même d'ailleurs fonctionner très bien ensemble. Je vais recontextualiser sur Paris très rapidement à travers deux critères. Pourquoi s'intéresser aux toits de Paris? Pour ceux qui auraient loupé les cinq conférences d'avant, la ville est très dense. Donc Paris est très très dense, donc plus dense que Manhattan, plus dense que Tokyo, 4 fois plus dense que Chicago. Et donc du coup, le toit, c'est un petit peu la dernière réserve foncière à envisager à Paris, enfin une des dernières. C'est aussi une ville qui est très très minérale, et on parle là de végétalisation de toiture. Donc juste pour donner un ordre de grandeur, à Paris, on a, selon qu'on compte ou pas, les bois de Vincennes et Boulogne, soit 5,8 mètres carrés d'espace vert par habitant, soit 14,5, à comparer à, par exemple, Bruxelles, où c'est 150 mètres carrés, ou même Rome, 321. Donc, on a un vrai déficit d'espace.
Et ne parlons pas de Berlin.
Voilà, donc, je crois que c'est en dessous de Rome. Mais bon, c'est toujours cette question de définir les villes aussi. Et une difficulté particulière à Paris, c'est qu'on a, et ça avait été évoqué ce matin, c'est une ville historique à l'architecture ancienne. Donc, à l'architecture ancienne, qu'on peut voir sur la photo, ça ne correspond pas forcément à des toitures qui sont faciles à mettre en place, faciles à végétaliser, avec des problèmes de portance, de pente. Et aussi une ville historique, donc une ville patrimoniale, avec justement des restrictions, des bâtiments classés, et donc tout un combat avec les architectes des bâtiments de France.
On en parlait ce matin avec Dominique Alba.
On en parlait également. Par contre, une difficulté qui est partagée là avec toutes les autres villes, c'est vraiment l'appropriation de l'objet toit vert dans toute sa transversalité. Et je vais parler notamment de l'appropriation politique. Donc ça reprend hein, ce qui a été dit ce matin. Toujours dans le cadre de Paris et à l'échelle municipale, donc, un premier engagement, c'était le plan biodiversité qui notamment s'engage à créer 15 nouveaux jardins terrasses d'ici 2020. Il y a plein d'autres engagements, je vous engage à le lire, il est en ligne sur le site de la ville de Paris. Un autre point clé, c'est l'articulation de ces politiques publiques. C'est vraiment un enjeu crucial, comme on voyait, voilà, le cabinet de René Dutré, c'est vraiment le solaire. Le cabinet de Fabienne Giboudot, c'est plus les jardins. Comment on articule tout ça pour construire la ville? C'est assez caricatural, mais c'est quand même des plans qui...
Il faut penser à lui poser la question tout à l'heure.
Pour les villes, il y a finalement trois manières d'agir sur le bâti. C'est agir sur la réhabilitation des bâtiments, agir sur des toitures déjà végétalisées qui ne fonctionnent pas forcément comme l'a dit Yann. Aussi sur les programmes neufs, où là, on a bien ce chiffre d'1% en tête. Mais aussi, agir pour la ville, c'est aussi aider la filière des éco-activités. C'est aussi sensibiliser les différents publics à travers des colloques comme aujourd'hui, à travers, par exemple, l'édition de guides. Et c'est également le financement d'études, hein, financement par exemple d'études pour l'atelier parisien d'urbanisme ou des doctorants, un exemple ici. Et je trouve qu'on a beaucoup opposé en la politique et la science toute la matinée. C'était juste une diapo pour dire que la ville aussi investit dans l'expérimentation. Et on a des projets pilotes qui sont menés par la ville de Paris, notamment au niveau du centre horticole et de l'école du Breuil, avec le test d'une gamme végétale régionale qui est favorable à la biodiversité, donc toujours sur cette thématique des toits. Également un toit qui est végétalisé par la direction des espaces verts et de l'environnement, des expérimentations sur des opérations d'aménagement, et aussi à venir la plateforme Aquafutura qui sera un lieu d'expérimentation en 2013. Donc voilà, il n'y a pas forcément une opposition non plus si nette. On peut déplorer, hein, bien sûr, toujours, par exemple, il n'y a pas de recherche sur les substrats alors que c'est quelque chose de clé et c'est quelque chose qui peut servir pour d'autres recherches. Enfin, là, on parle des toits, mais les sols étant très pollués, les systèmes hors-sol ont un gros potentiel. Donc, travailler sur les toits, c'est aussi travailler sur plein d'autres formes de production possibles. Et juste, voilà, deux exemples. Un exemple réalisé, c'est le jardin sur le toit dans le 20e arrondissement, un jardin partage et d'insertion. Et aussi, juste pour parler des potentialités pour le futur, par exemple, ce chapelle internationale dans le 18e, où il y aura 10 000 mètres carrés de toiture. Donc voilà, il reste, on a beau dire, Paris, c'est très dense. Il y a aussi des opérations d'aménagement où là, on va pouvoir avoir des opérations de grande échelle. Donc j'en arrive à la conclusion.
Ça tombe bien.
Je vois les yeux de Cyril. Donc on a un réel potentiel en termes de services écosystémiques pour les villes. Comme le disait Yann, encore faut-il qu'on ait vraiment des données très, très précises de la part de la littérature scientifique. Notamment, on peut déplorer le manque d'évaluation de ce qui a été mis en place. Donc voilà, un manque de ce côté-là. On a aussi des nouveaux usages et des nouveaux services pour les toitures végétalisées, avec notamment l'agriculture urbaine, donc il vient encore plus complexifier la question, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Et au contraire, il faut continuer à avoir une implication à la fois des villes, de la science et de ces milieux pour justement avoir une transversalité des acteurs, donc que ce soit au niveau des différents cabinets, des directions, de toutes les institutions, mais aussi des différents acteurs, qu'ils soient scientifiques, associatifs, hein, pour remettre un petit peu l'humain dans ces questions et des compétences. Et du coup, produire voilà, des projets politiques et scientifiques pertinents et générer justement une compréhension commune des enjeux pour construire de vraies stratégies, puisque ces projets, on l'a vu, sont très complexes et nécessitent d'être réfléchis vraiment au cas par cas pour maximiser les usages et les services. Voilà.